Quelques trois mois plus tard, le 13 mars, Clark, Mew et moi-même quittions le Boréal à la latitude de 85 degrés 15 minutes. Nous emmenions avec nous 32 chiens, 3 traîneaux et 3 kayaks. Nous emportions pour nous 112 jours de nourriture et pour les chiens 40 jours. Nous étions à 600 km du pôle environ. Nous espérions l'atteindre en 43 jours, puis repartir pour le sud en nourrissant les chiens avec ceux qui seraient morts en route. Nous rejoindrions ensuite la terre François-Joseph ou le Spitzberg, où nous pourrions rencontrer un baleinier. Les premiers jours, notre progression fut très lente, car nous devions sans cesse contourner des blocs de glace et les chiens se comportaient mal. Ils s'arrêtaient à chaque difficulté et perdaient la piste. Clark avait eu l'idée d'attacher à chaque traîneau un ballon en baudruche gonflé à l'oxygène. Nous avions une provision de zinc et d'acide pour refaire de l'oxygène et compenser les fuites. Ces ballons permettaient de soulager le chargement d'une douzaine de kilos, mais le troisième jour, Mew força la dose et son ballon éclata. Clark et moi, nous dûmes répartir les charges. Le soir du quatrième jour, nous n'avions parcouru que 35 kilomètres et, du haut d'une colline, nous pouvions encore apercevoir les mâts du vieux Boréal. Clark marchait en tête, à ski, et conduisait un traîneau qui transportait 200 kilos d'instruments, de munitions, de pain azoté et de pemmican. Mew suivait ensuite avec son traîneau, qui ne comportait que des provisions. Je fermais la marche avec un chargement varié. Mais le quatrième jour, Clark faillit perdre la vue à cause de la réverbération, et Mew prit sa place. Bientôt, nous commençâmes à souffrir cruellement. Le soleil qui brillait nuit et jour ne donnait aucune chaleur. La nuit, nos sacs de couchage, Clark et Mew partageaient le même, j'étais seul dans le mien, étaient moites à cause de la transpiration, et nos doigts, malgré nos gants en peau de loup bourrés de séné, saignaient continuellement. Parfois, nos légers kayaks en bambou raclaient dangereusement les blocs de glace. Ils étaient notre seul espoir de regagner la terre. Mais les plus grandes difficultés nous étaient causées par les chiens. Nous perdîmes un jour 6 mortelles heures à les harnacher et à les décider à avancer. Le 12e jour, Clark fit le point et découvrit que nous étions seulement au 86e degré de latitude. Mais le lendemain, nous dépassâmes la position atteinte officiellement jusqu'à présent par le Nix. Sans nous l'avouer, nous étions obsédés par la nourriture. Nous ne pensions qu'à l'heure du repas toute la journée. Mew souffrait de la soif de l'Arctique. Dans de telles conditions, l'homme devient en peu de temps non seulement un sauvage, mais une brute, à peine au-dessus de l'ours et du morse. Ah, la glace ! Quel cauchemar sordide ! Le 11e jour, notre avance devint plus rapide. Le sol devint moins inégal, seulement parsemé de quelques arêtes que nous évitions facilement. Je m'éloignais de la tombe de David Wilson à raison de 15 à 20 kilomètres par jour. Cependant, son bras sortait pour ainsi dire de la tombe, et il m'atteignait même à cette distance. À bord du Boréal, on s'était perdu en conjectures sur sa disparition. Toutes les suppositions étaient permises, mais j'avais tout lieu de penser que personne ne me suspectait d'être responsable de sa mort. Le 22e jour de notre course, cependant, à 200 km de notre but, cette mort fut la cause d'une explosion de fureur et de haine entre nous trois. C'était à la fin d'une étape et nous avions le ventre creux. Nous étions exténués et d'une humeur agressive à l'extrême. Un des chiens de Mew était malade. Il fallait le tuer. Il me demanda de le faire. « Oh, dis-je, c'est à vous de tuer votre chien. »« Je n'en suis pas sûr, » répondit-il en s'énervant d'un coup. « Vous n'en êtes pas à un meurtre près, Jeffson. »«
Qu'insinuez-vous, Mew ? » dis-je en sursautant et en sentant monter en moi une rage démente. « Voulez-vous dire que ma profession ?»«
Il s'agit bien de profession, » grogna-t-il. « Allez déterrer Wilson. » « Je suppose que vous savez où le trouver. Il vous dira tout de suite ce que j'insinue, lui. »
Immédiatement, je bondis vers Clark, qui se débattait avec les harnais des chiens, et, le frappant violemment sur l'épaule, je criai « Cette brute m'accuse d'avoir assassiné Wilson !»« Et alors ?» dit Clark. « Je vais lui fendre le crâne !»« Allez-vous-en, Adam Jeffson, et laissez-moi !» grommela Clark.
« C'est tout ce que vous trouvez à dire ?» lui demandai-je.
« Allez au diable, espèce de... Laissez-moi tranquille. Vous connaissez votre conscience mieux qu'un autre, je suppose. »
Devant cette insulte, je grinçais des dents, mais que pouvais-je faire? Depuis cette algarade, mon esprit fut en proie à des pensées malsaines. Mais nous étions tous les trois sous l'empire d'une haine dangereuse qui pouvait à tout moment dégénérer en meurtre. Dans cette course à la fortune, à travers les glaces du pôle, nous étions comme des bêtes en danger de mort. Le 10 avril, nous dépassâmes le 89e parallèle, et bien que notre âme fût aussi malade que notre corps, nous nous hâtions encore. Comme l'animal le plus primitif, nous étions condamnés au mutisme, et c'est à peine si au cours de la journée, l'un de nous murmurait une syllabe. Nous nous mouvions à travers un enfer glacé, dans un état de parfait abrutissement, totalement replié sur nous-mêmes. Ce territoire est damné, l'homme ne doit pas y pénétrer. Nos âmes dégénéraient avec une rapidité effroyable. Quant à moi, je n'avais jamais pu imaginer que tant d'atroces sauvageries pût couver dans un cœur comme le mien. Si les hommes pouvaient pénétrer dans le pays des démons et partager leur aptitude au mal, ils seraient ce que nous étions. Au fur et à mesure que nous avancions, la glace devenait plus lisse, et c'était maintenant 30 et même 40 kilomètres que nous parcourions à chaque étape. Il est vrai que les traîneaux étaient plus légers. Bientôt, nous rencontrâmes une succession d'étranges objets éparpillés sur la glace, plus nombreux de jour en jour. Ces objets avaient l'apparence de cailloux, de débris de minerais de fer, incrustés de minuscules miroirs, étincelants comme la glace. Nous découvrîmes que c'étaient des pierres précieuses. Le second jour où nous parcourûmes 40 kilomètres, Clark ramassa un quartier de diamants de la taille d'un pouce d'enfant, et ce genre de trouvaille devint de plus en plus banal. C'est ainsi que nous connûmes la richesse au-delà de ce qu'on peut rêver. Mais, tels des ours et des phoques, nous aurions donné toute cette incommensurable fortune pour un morceau de poisson. Clark expliqua qu'il s'agissait de météorites ferreux attirés par le magnétisme du pôle. Le froid empêchait leur combustion dans la traversée de l'atmosphère. Mais comme au pôle il y a peu d'hydrogène, je pensais plutôt qu'ils avaient été entraînés par la gravité en raison de la faible densité de la couche atmosphérique. Quoi qu'il en soit, ces objets cessèrent vite de préoccuper nos esprits apathiques, sauf lorsqu'ils obstruaient notre route.